Découvrez chaque semaine le patrimoine cerverin présenté par Laura Giraud avec Raymond Collomb, président de l'association DESET. Raymond Collomb, vous êtes président de l'association pour la sauvegarde de l'ouvrage Maginot du patrimoine militaire ainsi que du téléphérique de Terre Rouge. L'association s'appelle Les Zettes.
Les Zettes, pour une petite modification, je suis simplement coordonnateur parce que j'ai trouvé que président, c'était un peu trop... un peu trop pompeux.
Bon, alors, vous êtes coordinateur de l'association.
Voilà, oui.
On va parler, justement, de cet ouvrage, l'ouvrage Maginot.
Oui.
Un peu d'histoire.
Alors, un peu d'histoire, alors... Pour savoir pourquoi on a de la fortification dans notre région briançonnaise, il faut remonter au moins jusqu'au Moyen-Âge, parce qu'à cette époque-là, nous étions en terre du Dauphiné, et ce fameux Dauphiné allait jusqu'à plus loin que Suse, et en 1343, justement, nos ancêtres ont racheté leur liberté au dauphin Humbert II, et ont créé la première démocratie d'Europe, la Fédération des Escartons. Il y avait 5 escartons, donc 2 en territoire français actuel, le Briançonnais et le Queyras, et 3 autres en territoire italien, Scoux, Bragelas et Saint-Dauphin. Cette fédération a bien fonctionné jusque au traité d'Utrecht, en 1713, lorsque Louis XIV a perdu la guerre de succession d'Autriche. La frontière, qui était donc là-bas à 80 km de Turin, a été ramenée aux eaux pendantes sur nos crêtes, qui est notre frontière actuelle. Et c'est à partir de là, et même un petit peu avant, lorsque, en 1696, le duc de Savoie avait envahi le Dauphiné, Louis XIV avait envoyé Vauban à Briançon, et à cette date-là, il a mis en chantier la modification du fort du château de Briançon. Il est revenu en 1700, où il a fait étudier tout ce qui lui est attribué actuellement, c'est-à-dire, sur Briançon, on a la redoute des Salettes, on a le fort Dauphin, on a le fort du Château, le Randouillet, le fort des Têtes, je pense pas en oublier là, et mon Dauphin. Il est mort quelques temps après, et ce sont ses élèves de l'école du génie qu'il avait créé, qui ont construit selon ses plans, ce qui est attribué actuellement à Vauban. Après la guerre de 1870, la Troisième République naissante a décidé de refortifier nos frontières et elle avait confié cette tâche à un général du génie qui s'appelait Chéré de Rivière, qui lui a fait les plans et puis a fait construire tous les forts d'altitude actuellement, qui sont de Briançon. Dans notre région, on a donc le fort de la Croix-de-Bretagne, qui arrive gauche de la Cervarette, la redoute de la Grand-Maille et la redoute de la Louzette. Sur l'autre rive, on a l'internet, les Gondrans, parce qu'il y a plusieurs sites, et le Janus. Et pour ce qui nous intéresse plus particulièrement à servir, il y a ce fameux barrage des Zettes qui comprend le mur qui barre le verrou au fond de la vallée, avec une tranchée de fusillade qui lui est perpendiculaire de façon à avoir des tirs croisés pour être plus efficace contre l'ennemi. Et ce dispositif-là était, appuyé par une batterie de 5 canons au-dessus de Servières, tiré soit par-dessus le mur vers la frontière, soit sur les débouchés d'Isoire. Et à partir des années 30, à l'avènement de Mussolini, puis après sa prise de pouvoir et sa création du parti fasciste, et ainsi que Hitler avait suivi, la France a décidé de refortifier nos frontières et... Sous le ministère plein levé, la commission d'organisation des régions frontières a décidé de refaire une ceinture fortifiée sur toute la France, qui a été appelée ligne Maginot parce que les crédits ont été votés par le ministre de la guerre suivant qui était Maginot. Et à partir de là, on a eu la création dans notre région ici de quelques petits ouvrages. On a eu le Granon, après on a eu la modification du Janus qui a été transformé en Fort Maginot, et puis il y a eu la construction de l'ouvrage des Êtres qui, à ma connaissance, est le seul ouvrage fortifié Maginot qui se trouve en fond de vallée. Il est en fond de vallée pour défendre justement ce fameux passage stratégique du verrou des Êtres qui pouvait être allé par les cols Bousson, le col Chabot et le col Gimon. Donc on avait trois cols dans cet encellement de Bousson qui pouvaient permettre l'accès sur la vallée de Servières et sur Briançon. Donc ce fort était stratégiquement bien situé. Donc il a été construit à partir de juin 1932. En 1938, il ne manquait plus que les lunettes de visée et la cuisinière électrique de la cuisine.
Ce patrimoine, on peut le visiter l'été?
On peut le visiter l'été.
Sur réservation?
Sur réservation, oui. Ce qui est le plus simple, c'est de contacter l'association ou bien le point info à servir. Et quand les personnes ont constitué un groupe d'une dizaine de personnes, on cale une date qui convienne à tout le monde, aussi bien aux bénévoles qu'aux visiteurs.
Et concernant donc l'intérieur de ces ouvrages?
Voilà, donc à l'intérieur de cet ouvrage, on va retrouver tout le nécessaire pour vivre en autarcie pendant 35 jours.
Ah, quand même.
Oui, quand même. Ce qui était une des conditions de l'imaginon. Donc on va y trouver à l'intérieur, au tout début, un local pour la radio. Ensuite, on va trouver dans le local de l'usine, qui est en gros le point stratégique, on va retrouver les groupes électrogènes qui auraient dû prendre le relais de l'alimentation de l'ouvrage au cas où la ligne électrique aurait été coupée. Et on trouve aussi tout le nécessaire de ventilation pour assurer ce qui était la spécificité Maginot, c'est une légère surpression à l'intérieur pour éviter l'entrée éventuelle de combat, mais surtout évacuer tous les gaz nocifs, aussi bien ceux de l'utilisation des armes que la respiration des gens et bien tout ce qui pouvait faire du gaz carbonique à l'intérieur. Ensuite, on va trouver les locaux pour les munitions, la réserve d'eau, les réserves de nourriture, les chambrées pour loger les hommes, les 70 hommes qui ont été là pendant les combats de juin 40. L'ouvrage avait été prévu pour en loger 90, mais en fonction des boires sur le nord-est, une partie de l'armée des Alpes a été envoyée à renfort là-haut. Et puis, on va retrouver, en fin d'ouvrage, les blocs de tir dirigés vers la frontière. Ils sont armés de chaque jumelage de mitrailleuses qui pouvaient tirer 600 coups à la minute environ.
Bien équipés pour l'époque.
Ah oui, c'était bien équipé, mais oui. Et en fonction de ce qu'avait aperçu les sections d'éclaireurs skieurs qui étaient sur les crêtes et qui surveillaient la frontière. Un régiment de petits chars légers fascistes était stationné dans la vallée d'en face. Donc, en dernière minute, il y a eu une tentative de modification de percer une partie du béton pour remplacer la mitrailleuse par une arme mixte ou un petit canon anti-char qui aurait permis d'empêcher le passage à des blindés. Et puis là, voilà, après, c'est à peu près tout ce qu'on a sur l'intérieur. Un des blocs de tir est accessible de plein pied, mais les autres ne sont pas accessibles à la visite parce qu'ils se trouvent en haut de puits avec 17 et 19 mètres d'échelle qui ne sont plus totalement sécures. On visite les puits, mais on n'y monte plus dedans.
beaucoup.